Merci. Dans mes lectures de l'été, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Dans mes lectures de cet été, j'ai lu un livre de Watchman Nee intitulé La Nouvelle Alliance. Ah bon? Merci. Et j'ai trouvé ce livre formidable, je vous le conseille. Et donc, je vais, non pas vous le résumer, hein, bien sûr, ça serait beaucoup trop long, mais vous parler un peu de ce que j'ai appris dans ce livre concernant la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce que c'était qu'une alliance? C'est une catégorie biblique un peu particulière, mais qui traverse toute la Bible. Eh bien, une alliance, dans le Proche-Orient ancien, c'était un contrat par lequel un suzerain s'engageait envers un vassal de lui assurer sa protection militaire contre d'éventuels ennemis, moyennant obéissance, et le plus souvent aussi paiement d'un tribut. L'initiative en revenait au suzerain qui l'imposait, et le vassal ne pouvait guère s'y soustraire. Mais il y avait un véritable engagement de protection de la part du suzerain. L'Ancien Testament décrit plusieurs alliances que Dieu a contractées avec certains hommes ou certains peuples, mais celle que le Nouveau Testament nomme « Ancienne Alliance » et celle que Dieu a octroyée aux Israélites lors du don de sa loi au mont Sinaï. Donc on va parler brièvement de cette ancienne alliance contractée au Sinaï par Dieu envers son peuple. On trouve ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Exode chapitre 19 au verset 5. C'est Dieu qui parle à son peuple. Exode 19 verset 5. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples de la terre, bien que toute la terre m'appartienne. Donc, vous voyez que dans ce verset, il y a deux « si ». Si vous m'obéissez, si vous restez fidèle à mon alliance. C'est donc une alliance conditionnelle, conditionnée à l'obéissance. Un peu plus loin, au chapitre 20, au premier verset, nous lisons « Alors Dieu prononça toutes ces paroles ». Et toutes ces paroles, eh bien, c'est justement la loi, qui commence, comme vous le savez, par le décalogue, les 10 commandements, et puis toute une série de lois qui réglementaient la vie de son peuple, la vie des Israélites. Et que va répondre le peuple? Eh bien, par trois fois, le peuple d'Israël va dire « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». On le voit au chapitre 19. La deuxième partie du verset 7, chapitre 19, 7, pas tout à fait au début du verset, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Également au chapitre 24, au verset 3, « Tout le peuple s'écria d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et puis, dans le même chapitre, au verset 7, même chose. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Voilà. Et cette alliance du Sinaï a été scellée par l'aspersion du sang d'un sacrifice, pour moitié sur l'autel du sacrifice et les objets du tabernacle, et pour moitié sur le peuple. On lit ça dans Exode 24, à partir du verset 4, je lis ce texte, donc Exode 24, verset 4. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis, il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Et là donc, les Israélites déclarèrent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « C'est ceci est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Voilà donc ce qu'était l'Ancienne Alliance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va rappeler cela au chapitre 9. Donc vous sautez dans le Nouveau Testament, vous prenez le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 19. Hébreux 9, verset 19. En effet, Moïse a d'abord exposé au peuple tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi, puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine rouge et une branche d'hysope, et il en a aspergé le livre ainsi que tout le peuple en disant « Ceci est le sang qui scelle l'alliance que Dieu vient d'établir avec vous. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre que le Christ a fait l'aspersion de son propre sang sur l'autel du tabernacle, non pas terrestre, mais céleste. Un tabernacle spirituel, dont le terrestre n'était qu'une ombre. Il dit ça au chapitre 9, au verset 12. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il s'agit du sanctuaire céleste. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Et bien des années plus tard, le prophète Jérémie a annoncé la venue d'une nouvelle alliance. On trouve ça dans le chapitre 31 de Jérémie, donc vous repassez dans l'Ancien Testament. Prophète Jérémie, chapitre 31, attention. Au verset 31. Donc Jérémie 31, verset 31. Voilà ce que dit le prophète Jérémie. Alors, il faut se rappeler l'époque à laquelle Jérémie a prophétisé, c'était une époque très troublée, où le royaume du sud, le royaume de Jérusalem et de Juda, allait être détruit, où la population allait être déportée en Babylonie. Et donc, il y avait vraiment de quoi s'inquiéter. Et le prophète Jérémie avait prophétisé qu'il fallait accepter ce jugement de Dieu, mais il avait également des paroles d'encouragement extraordinaires, et voici une de ses paroles. Donc au verset 31, « Des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur suzerain. » Donc oui, l'ancienne alliance a été rompu par défaut d'obéissance. L'Éternel le déclare, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, là encore, va reprendre ce texte et va en faire l'élément central de sa prédication envers les chrétiens d'origine juive qui était tenté de revenir à l'ancienne alliance. On voit là, alors on repart dans Hébreux, au chapitre 8. J'aurais dû mettre un garde-page. Donc, Hébreux, chapitre 8, au verset 7. C'est exactement le même texte. L'auteur cite Jérémie, mais je vais vous lire quand même, oui, à partir du verset 7. En effet, voilà ce que dit l'auteur des Hébreux. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. » Mais alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Oui, le texte n'est pas tout à fait pareil. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leurs pensées. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un à l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère, « Il faut que tu connaisses le Seigneur. » Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, « car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est prêt à disparaître. Et il reprend en plus l'élément central de ce texte au chapitre 10, donc juste après, au verset 16, c'est vraiment l'élément central de sa prédication. « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » On a donc là tout l'exposé de la nouvelle alliance. Vous avez noté que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en citant Jérémie, dit que c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple. Ils n'ont pas été fidèles à mon alliance. Il s'agissait donc bien, pour la première alliance, d'une alliance conditionnelle, et les Israélites ont totalement failli à leur engagement dans cette alliance. Tout à l'heure, quand on a pris la Sainte Cène, vous savez que Jésus a annoncé la nouvelle alliance, qui va entrer en vigueur et de façon définitive par sa mort, lors de l'institution justement de la Sainte Cène. On trouve cela dans Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux précise au chapitre 9, verset 15, « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. » L'auteur de la lettre aux Hébreux parle d'héritage parce que le mot « alliance » signifie aussi « testament ». Et comme dans les affaires humaines, les bénéficiaires du testament ne touchent leur héritage qu'après la mort du testateur. Et ce qui est extraordinaire dans le cas de Jésus, c'est qu'il est à la fois le testateur et l'exécuteur du testament. Tout comme il est à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Cela nous montre que la nouvelle alliance ne comporte pas de risque de faillite. Parce que c'est Dieu qui fait tout, qui s'occupe de tout en la personne de Jésus. Alors, on va examiner maintenant les caractéristiques de cette nouvelle alliance, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux qualifie de bien meilleure que l'ancienne. Alors d'abord, non seulement elle est nouvelle, mais aussi elle remplace l'ancienne, parce que cette dernière n'était pas sans défaut. de nos jours, on voit fleurir toute une littérature qui veut revenir aux origines juives du christianisme. Il y a beaucoup de livres qui sortent dans ce sens-là, où on nous exhorte à retrouver nos racines juives, l'observation du sabbat, des choses comme ça. Vous voyez, cette tendance existait déjà à l'époque de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et ça revient maintenant. Alors que pourtant, la Nouvelle Alliance remplace l'Ancienne. D'où l'exhortation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux à ses lecteurs, ne surtout pas mélanger les éléments de l'Ancienne Alliance avec ceux de la Nouvelle. Et pourtant, c'est bien Dieu qui a donné sa loi à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse. Alors, quel était le défaut de cette Ancienne Alliance, puisqu'elle avait un défaut? Et encore une fois, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui répond au chapitre 7, Hébreux chapitre 7, au verset 18. Hébreux 7, verset 18. « D'une part donc, la règle antérieure, l'Ancienne Alliance, se trouve abrogée parce qu'elle était impuissante et inutile. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. » Le problème de l'Ancienne Alliance, c'est qu'elle était conditionnelle. Rappelez-vous Exode 19.5, « Si vous m'obéissez, si vous restez fidèle à mon alliance. » Moïse n'était même pas encore redescendu de la montagne où l'Éternel lui avait donné les tables de la loi gravées de sa main que le peuple violait déjà le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Le texte de l'Exode au chapitre 32 nous rapporte que le peuple s'est impatienté parce que Moïse tardait à redescendre de la montagne. Il a demandé à Aaron, le frère de Moïse, qui était prêtre, de faire une idole en or, un veau, à l'image des dieux de l'Égypte dont il venait d'être tout juste délivré. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que non seulement la Nouvelle Alliance remplace l'Ancienne, mais qu'elle est bien meilleure. Alors en quoi est-elle bien meilleure? D'abord, en ce qu'elle apporte la solution définitive au problème du péché. Nous qui sommes les bénéficiaires de la Nouvelle Alliance, nous sommes définitivement purifiés de la souillure du péché par le sang de Jésus, dont la valeur est infiniment supérieure à celle du sang des animaux qui devait être sans cesse offert sous l'Ancienne Alliance. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Jérémie, toujours au chapitre 31, au verset 34, « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Cela ne veut bien sûr pas dire que nous ne sommes plus pécheurs, mais que Dieu nous pardonne et ne tient plus compte de nos péchés en vertu du sang de son bien-aimé Fils, répandu en notre faveur et pour apaiser sa colère contre le péché. C'est ce que dit le magnifique passage d'Hébreux 9, versets 11 à 14 qu'on va lire. Hébreux 9, verset 11. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert, non le sang de beaucoup de veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant? Magnifique passage, n'est-ce pas? La sécurité absolue de la Nouvelle Alliance tient donc à la base sur laquelle elle est fondée, le sang de Christ. Et ensuite, la Nouvelle Alliance n'est pas une alliance conditionnelle. Dans le texte d'Hébreux 8, comme dans celui de Jérémie, dont il est extrait, on ne voit Dieu poser aucune condition. Rappelez-vous ces trois verbes. Je placerai mes lois dans leur cœur. Je les grave, pardon, dans leur pensée, excusez-moi. Je placerai mes lois dans leur pensée. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On voit que c'est Dieu qui s'engage de façon unilatérale et qui fait tout. La volonté de Dieu, la loi, ne nous est plus extérieure, à observer sous peine de sanction. Elle nous est maintenant intérieure. Les tablettes de pierre de la loi avaient été placées dans l'arche, dans le lieu très saint. La loi de Dieu est maintenant placée par Dieu lui-même dans nos pensées. Ce qui veut dire qu'il nous donne la faculté totalement surnaturelle de penser comme lui. Les lois de Dieu avaient été gravées dans la pierre des tables de la loi, de la main de Dieu. Il les a maintenant gravées dans nos cœurs. Le prophète Ézéchiel, un contemporain de Jérémie, a parlé à sa manière de ce changement radical de la Nouvelle Alliance. Regardez dans Ézéchiel chapitre 11. Verset 19. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils vivent selon mes ordonnances et qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous voyez, on retrouve cette unité entre ces deux prophètes, entre Jérémie et Ézéchiel. Le cœur dans la Bible, c'est le lieu à la fois de nos émotions et de notre volonté. Par l'action vivificatrice du Saint-Esprit en nous, notre cœur, de dur comme la pierre, est devenu tendre, adouci, désirant accomplir la volonté de Dieu, ne se contentant pas de la connaître intellectuellement. Ce cœur de chair, remplaçant notre ancien cœur de pierre, est désormais capable de vivre selon les ordonnances de Dieu et d'obéir à ses lois. Cet attendrissement du cœur est bien sûr un processus patient et progressif du Saint-Esprit en nous. Au verset 11, on trouve un des bénéfices de la Nouvelle Alliance surprenant. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son concitoyen ou à son frère « Il faut que tu connaisses le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. » Cela veut-il dire que les enseignants de la parole sont désormais inutiles? Bien sûr que non. En 1 Corinthiens 12, au verset 28, par exemple, Paul énumère les nombreux dons que le Seigneur a fait à son Église. Et parmi ceux-ci, en deuxième et troisième position, il y a des prophètes et des enseignants. De même, en Éphésiens 4, verset 11, il nous dit, c'est lui, le Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Mais la grande nouveauté avec la Nouvelle Alliance, c'est la présence permanente du Saint-Esprit dans le croyant, du plus petit jusqu'au plus grand, qui le rend capable de discerner et de comprendre la pensée et la volonté de Dieu et d'avoir envie de l'accomplir parce qu'elle atteint justement son cœur. L'apôtre Paul développe cette bénédiction extraordinaire liée à la Nouvelle Alliance en 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Il vaut le coup de lire ce passage. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 2. À partir du verset 10. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'Esprit de cet homme, en lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Il est incapable de le comprendre. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Ça, c'est une phrase absolument extraordinaire, je trouve époustouflante. Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Et là, l'apôtre Paul ne parle pas uniquement du corps des apôtres, auquel il a été donné d'écrire le Nouveau Testament. Cette parole englobe tous les rachetés du Seigneur, tous ceux qui sont au bénéfice de la Nouvelle Alliance, du plus petit jusqu'au plus grand. Chacun de nous est doté, de façon tout à fait surnaturelle, de la pensée du Christ. N'est-ce pas extraordinaire? Nous pensons souvent à la gloire et à la félicité qui nous attendent dans la maison du Père. Mais est-ce que nous réalisons la gloire, la dignité, les extraordinaires privilèges que nous avons dès maintenant dans notre vie avec le Seigneur? Nous avons la pensée du Christ. Et je terminerai par le troisième engagement du Seigneur dans ce texte de Jérémie, repris en hébreu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette phrase revient de multiples reprises dans la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Elle exprime tout le désir et la volonté de Dieu à notre égard. Il s'y engage de façon ferme et unilatérale par les termes de la Nouvelle Alliance. Jésus l'a scellé de son propre sang, comme nous l'avons rappelé en prenant la coupe tout à l'heure. C'est tout simplement bouleversant et glorieux. Alors, frères et sœurs, vivons, mais vivons pleinement les privilèges de la Nouvelle Alliance. Servons notre Dieu de tout notre cœur. Il nous en a donné les moyens.